Ce soir, notre thème est la puissance de la parole. Notre thème, c'est la puissance de la parole. Vous savez, une parole peut tuer ou elle peut faire vivre. La parole a une puissance extraordinaire. D'ailleurs, il y a un psychiatre qui a écrit un livre qui a mis au grand jour la puissance de la parole. Elle a fait ressortir une situation qui a même donné lieu à la naissance d'une loi. En effet, depuis l'année 2002, il existe en France une loi dans le Code du travail et dans le Code pénal pour sanctionner le harcèlement moral. Qu'est-ce que cette loi sanctionne? Le harcèlement moral. Parlons un petit peu de cela et parlons un peu de la dame qui a mis cela en exergue et en avant. Regardez son nom, vous verrez son nom apparaître au tableau. Cette dame, c'est, comme je vous l'ai dit, une psychiatre de renom, une personne qui a fait des recherches, qui a eu l'occasion de recevoir beaucoup de personnes, d'écouter beaucoup de personnes, et elle a écrit un livre. En 1998, le livre s'appelait « Le harcèlement moral ». Quand elle a écrit ce livre, on ne connaissait pas bien ce phénomène. Et elle a décrit dans ce livre comment fonctionne le harcèlement moral. Elle a mis cela en lumière tellement bien que les médias se sont intéressés au phénomène. Tout le monde en a parlé et 4 ans après, on a eu une loi pour sanctionner le harcèlement moral. Alors, c'est quoi le harcèlement moral? Alors, regardez la définition qu'elle donne. Elle dit que c'est toute conduite abusive qui se manifeste notamment, comment? Par des comportements, ensuite, des paroles, ensuite, des actes, des gestes et des écrits. Relisons. Le harcèlement moral, c'est toute conduite abusive qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits. Dans quel but? Dans le but de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne. Donc elle est en train de dire, par un comportement, par des paroles, par des gestes, on peut porter atteinte à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne. Et pour bien comprendre ce qu'elle explique dans le livre, elle cite un humoriste. Et vous savez que les humoristes, ils ont une manière de dire les choses un peu comique, mais parfois une manière très pointue de dire les choses. Alors l'humoriste qu'elle va citer, c'est celui-là, Pierre Desproges. Elle cite ce que ce monsieur a dit dans son livre. Et voici ce que ce monsieur dit. Elle dit, un mot qui vient bien, regardez comment c'est comique, un mot qui vient bien, ça peut tuer ou humilier sans qu'on se salisse les mains. Donc, vous voyez la puissance de la parole. Avec une parole, on peut tuer, on peut humilier quelqu'un sans se salir les mains. Et regardez comment elle explique comment ça marche. Elle dit, lorsque quelqu'un parle, il peut tout le temps dire à quelqu'un, tu es un imbécile, tu es un nul, tu ne vaux rien, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, personne ne parle aussi, ce n'est pas moi. Et regardez comment ça marche. Elle dit, à partir de cette phrase, exprimée directement ou sous-entendue. Et c'est quoi la phrase? Tu es nul. Vous avez votre enfant. Tous les matins, après le café, vous lui dites, tu es nul. Vous avez votre femme. Tous les matins, en partant au travail, vous lui dites, tu es nul. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? La personne à qui on dit ça tout le temps, on l'appelle une victime. La victime intègre cette donnée. Elle dit, je suis nul. Et elle devient comment? Réellement nul. Regardez la suite. Elle dit encore, on devient nul. Pourquoi? Parce que l'autre a décrété qu'on était nul. C'est la page 112 du livre. Alors, ce thème-là, j'espère qu'un jour, avec les directeurs de famille, nous aurons l'occasion de revenir et de l'approfondir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais vous comprenez le principe. Le principe, c'est que la parole est une puissance. Il faut qu'un homme fasse attention à ce qu'il dit. Il faut qu'une femme fasse attention à ce qu'elle dit. Il faut qu'un parent fasse attention à ce qu'il dit à son enfant. Parce qu'au bout d'un moment, on peut réellement aliéner notre enfant, on peut le rendre débile, on peut le rendre malade, on peut le rendre malheureux, on peut le faire croire qu'il est vraiment un vaurien. Mais vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce que cette femme a publié en 1998, ce qui est devenu une loi en 2002, il y a longtemps que Jésus avait déjà dit ça. Il y a longtemps que Jésus avait déjà dit ça. Et c'est pour cela, mes amis, que Jésus est le plus grand de tous les psychologues. Regardez comment Jésus l'avait dit. Jésus l'avait dit dans l'Évangile. Regardez comment Jésus l'avait dit dans l'Évangile. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22. Jésus l'avait dit avant tout le monde. Mais c'est normal. Jésus sait tout avant tout le monde. Et quel que soit, si vous sentez que vous avez besoin d'un psychologue dans votre vie, ça peut être nécessaire. Mais à côté du psychologue, voyez Jésus. Ne voyez jamais le psychologue seul. Voyez le psychologue, mais voyez Jésus. Si vous sentez que vous avez besoin d'un médecin, voyez le médecin, mais voyez Jésus aussi. C'est le plus grand médecin. Si vous sentez que vous avez besoin d'un avocat, voyez l'avocat, mais voyez Jésus aussi. Car Jésus est un avocat auprès du Père pour ses enfants. Jésus avait déjà dit dans Matthieu 5, verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » C'est ce que les gens disaient. Les gens disaient, « M'en pas tué, m'en pas cassé braille, m'en pas fait rien, m'en pas coupable. » Mais vous pouvez imaginer quoi? Qu'il y a ce qu'on appelle la violence silencieuse. Tous les jours, il y a des gens qui entendent des bêtises, des moqueries, des jurons, soit au travail, soit dans la famille. Il y a des gens qui sont aujourd'hui malades, qui sont aujourd'hui en dépression. Il y a des gens qui se sont suicidés parce que quelqu'un les a poussés au suicide en les humiliant tous les jours, en les maltraitant tous les jours. Il y a des gens peut-être ici ce soir qui sont dans une grande souffrance parce que depuis leur tendre enfance, on leur a toujours dit « tu ne vaux rien ». Et celui qui fait ça, où est-ce qu'il est? Il est en prison? Non. Parfois, il porte une cravate. Parfois, il porte une veste. Comme disaient des proches, il a les mains propres. Parfois, il est respecté dans la société. Mais les employés qui sont avec lui, les collaborateurs qu'il a, les membres de sa famille sont en train de mourir à petit feu parce qu'il harcèle tout le monde autour de lui. Jésus dénonce cela. Jésus dit, vous croyez que c'est seulement quand vous avez tué quelqu'un que vous méritez d'être puni? Non. Regardez la suite. Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite d'être puni par les juges. Et encore, Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque dira à son frère, raca. Raca est un mot araméen qui signifie vide. Quand on dit à quelqu'un raca, on lui dit tu es vide. Mais qu'est-ce qui est vide? Sa tête. Quand on dit à quelqu'un raca, on lui dit tu es vide, tu n'as rien dans la tête. C'est pour cela qu'un homme un jour a dit à un autre, un homme est venu voir un autre, il lui a dit, je vais me suicider. Il lui a dit, comment tu vas te suicider? Eh bien, je vais me tirer une balle dans la tête. Alors, il lui a répondu, non, si tu veux vraiment mourir, ne tire pas une balle dans ta tête. Tire une balle dans ton cœur, parce que toi, tu n'as rien dans la tête, même si tu tires une balle dans ta tête est vide, tu ne vas pas mourir. Jésus dit, quand tu dis à quelqu'un qu'il est vide, alors on traduit souvent ça par imbécile, idiot. Mais mes amis, allons prendre le temps de réfléchir et d'être honnête. Combien de fois nous crions mon imbécile? Combien de fois nous dit mon ou vide? Ou pas n'y a rien en tête ou alors? Et parfois même à nos enfants que nous disons ça, pas vrai? Et Jésus dit, et pas que Jésus, c'est pourquoi je vous dis, toutes les fois qu'on prend le temps d'étudier sérieusement la Bible, les scientifiques confirment la Bible. Cette dame, elle écrit la même chose, mais 2000 ans, 6000 ans plus tard. La Bible disait ça depuis longtemps. Jésus dit encore, si vous dites à quelqu'un qu'il est un insensé c'est un fou. Et combien de fois nous disons ça aux gens? Comment on pète tête où? Ou malade? Ou débiélé? Si vous riez, c'est parce que vous savez que vous avez déjà dit ça à quelqu'un. Et puis, nous disons ça avec une facilité, une aisance. Dire à quelqu'un qu'il est débiélé, comment la personne c'est une voiture? Ou malade, ou pète tout, à force ou couillon comme ça. Mais ça, c'est des phrases qu'on répète tous les jours, pas vrai? Mais est-ce qu'on sait que lorsqu'on parle comme ça, on est en train de détruire quelqu'un? Mes amis, la parole est une puissance. L'humiliation, le harcèlement, les moqueries, on devrait rire avec les gens, mais on ne devrait pas rire aux dépens des gens. Et souvent, nous ne rions pas avec les gens, nous rions aux dépens des gens. Écoutez votre radio le matin. Écoutez les humoristes qui sont à la radio le matin. Ils ont du succès, mais ils rient comment? Avec les gens ou aux dépens des gens? C'est souvent aux dépens des gens. Parfois, je me dis, mais les gens de qui on se moque comme ça, devant des milliers d'auditeurs. Mais qu'est-ce qu'ils ressentent? Est-ce que celui qui fait ça se préoccupe de ce que la personne ressent? Et puis vous savez, on dit en créole, si pas ni soutiré, pas ni volé. Alors nous disons, ah, c'est pas moi qui fais ça. Mais pendant mon bus là, sans laisser ça, je mets la radio. Hein? Et puis quand il parle de ça, qu'est-ce que je fais? Je ris. Mais alors, comme j'écoute, plus moun koute, plus bouk la fait blague. Si pas ni soutiré, pas ni volé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens, acteurs, journalistes ou hommes politiques, qui sont déjà tombés en dépression après une chronique meurtrière? Et quand ils tombent en dépression comme ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous aussi, nous rions, nous nous moquons. Est-ce que nous prenons à l'école, au travail, dans nos familles, la défense de celui dont on se moque tout le temps? Ou est-ce que nous rions aussi dans tous les groupes, il y a toujours un souffre-douleur? Réfléchissez bien. Dans votre travail, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dont on se moque tout le temps. Pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ça. Hein? Je vois des gens qui rient parce qu'ils se disent, mais c'est vrai. Mais celui dont on se moque tout le temps, qu'est-ce que tu fais pour lui? Est-ce que tu imagines que parfois le soir, même s'il rit la journée avec nous, mais est-ce que tu imagines que parfois le soir, quand il est couché, il a des angoisses, il a des tristesses, et puis toi, tout en lui parlant de Jésus pendant la journée, les yo ka fait la fête et pin, yo ka di igro, yo ka di negro, yo ka di chive grené, ou aussi ou ka ri, ou façon lè. Mes amis, si vous riez comme ça, le rire que vous avez là, c'est un rire nerveux. Parce que votre conscience est en train de vous travailler. Et vous savez que c'est vrai ce que nous sommes en train de dire. Mais vous savez une chose. Jésus, lui-même, il a subi le harcèlement moral. Regardez cela dans vos Bibles. Lisez avec moi. Et vous verrez que Jésus a subi toute forme d'humiliation. Jésus dit ce soir à tous ceux qui sont ici, j'ai connu le harcèlement. Je peux te comprendre et je peux t'aider. Si ce soir, il y a ici quelqu'un qui a souvent été humilié, qui a perdu confiance en lui-même, qui se sent pas aimé, qui se sent pas bien dans sa peau, le Seigneur a un message pour toi ce soir. Il te dit, j'ai connu cela. Et je peux t'aider. Je peux te venir en aide. Regardez comment on s'est moqué de Jésus. Regardez par quel geste on a humilié Jésus. Ce que je vais vous montrer, c'est le plus fort, le plus détaillé. Mais lisez les évangiles et soyez attentifs. Et vous verrez qu'on s'est moqué de Jésus tout le temps, mes amis. Tout le temps, on s'est moqué de lui. Quand Jésus disait, par exemple, « Je vais ressusciter une enfant. » On se moquait de lui. On s'est moqué de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le harcèlement que Jésus a connu son climax lors de sa passion. Prenez vos Bibles et nous allons lire. Lisons et vous verrez apparaître le verset. Lisons dans l'évangile de Luc, de Matthieu plutôt. Au chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Regardez avec moi. Évangile de Matthieu, chapitre 27. Verset 27. Matthieu 27, verset 27. Regardez ce que la Bible dit, chers amis. La Bible dit que nous sommes pendant le procès de Jésus. Pendant le procès de Jésus, Jésus est envoyé de lieu en lieu. On le balade, on le trimballe comme une marchandise. Et à un moment, regardez ce qui se passe. La Bible dit dans Matthieu 27, verset 27. Est-ce que quelqu'un n'a pas une Bible et voudrait une Bible pour suivre? Si vous voulez une Bible pour suivre, levez la main. Si quelqu'un n'a pas de Bible. Oui, il y a un monsieur ici, au milieu. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait une Bible? OK. Matthieu 27. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 27, verset 27. Que lisons-nous? La Bible dit, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Donc, analysez avec moi, mes amis. S'ils sont assis autour de Jésus, ça veut dire qu'ils ont mis Jésus au milieu et puis ils se sont assis autour de lui. Est-ce que c'est une position confortable? Je ne vous entends pas. Soyez avec moi. Est-ce que la position est confortable? Déjà, quand nous étions à l'école et qu'on nous envoyait au tableau seulement, certains d'entre nous, nous avons mouillé nos slips seulement quand on nous envoyait au tableau. Pas vrai? Oui. Mais là, on ne l'envoie pas au tableau. Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des collègues, ce sont des soldats, des brutes. Ils s'asseyent autour de lui. Jésus est au milieu. Déjà, la position est une position humiliante. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Verset 28, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Si j'étais plus téméraire, je ferais venir un de ces deux beaux garçons sur l'estrade. Si j'étais plus téméraire. Et quand il serait là, debout devant vous, je lui enlèverais ses vêtements. Il y a la femme de l'un d'eux là qui commence à se fâcher. Mais comment pensez-vous que se trouve un homme au milieu de soldats des brutes et les brutes te déshabillent? Est-ce que vous auriez aimé que ça vous arrive? Est-ce que ça, ce n'est pas du harcèlement? Est-ce que ça, ce n'est pas de l'humiliation? Mes amis, je ne vous souhaite pas cette expérience d'être mis au milieu d'une foule, d'un groupe d'hommes enragés, méchants, parfois alcoolisés et qui vous déshabillent. Ça, c'est une deuxième humiliation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Au verset 29, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient. Ça veut dire qu'ils se moquaient de lui. Ils le raillaient en disant quoi? Mais est-ce que vous auriez aimé être roi avec une couronne d'épines? Et puis des gens à genoux devant vous qui se moquent. Ensuite, au verset 30, qu'est-ce que vous lisez? Il lui crachait dessus. Je commence à connaître mes sœurs par ici. Et quand j'ai lu ça, j'ai vu une qui a frémi. Et je connais son caractère. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne aurait reçu comme coup de griffe. On lui crache dessus. Mais ces hommes-là qui lui crachent dessus, ils ne reviennent pas du dentiste. Ce sont des soldats. Depuis quand ils ont vu une brosse à dents? Je ne sais pas. Est-ce que vous imaginez la situation un petit peu? Parce que quand on lit la Bible, mes amis, on lit la Bible souvent d'une manière trop polissée. Il faut voir la réalité des faits. Ces hommes-là boivent. Ce sont des soldats. Ils ne vivent pas forcément chez eux. L'hygiène, ce n'est pas leur préoccupation. Et à l'époque, il n'y avait pas de dentistes à tous les coins de rue. Vous imaginez la puanteur qui est sur Jésus? Est-ce que vous imaginez ça, mes amis? Vous imaginez l'humiliation pour Jésus, la puanteur pour Jésus? Ensuite, regardez ce qui est dit. La Bible dit, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et le menèrent pour le crucifier. Souvent, quand on parle du calvaire, on ne parle que des souffrances physiques de Jésus. Mais Jésus n'a pas connu que des souffrances physiques. Jésus a connu l'humiliation. Jésus a connu le harcèlement. Jésus a connu la déchéance. Jésus a connu tous les sentiments par lesquels toi, tu peux passer. Mais ce n'est pas tout. Car si c'était seulement les soldats qui se moquaient de Jésus. Regardez ce que la Bible dit un peu plus loin. Dans Matthieu 27, toujours, au verset 39. Matthieu 27, verset 39. Là maintenant, Jésus est cloué sur la croix. Et quand il est cloué sur la croix, je vous rappelle qu'il n'a plus de vêtements sur lui. Il est cloué sur la croix, il n'a plus de vêtements. Et qu'est-ce que vous lisez maintenant? La Bible le dit dans Matthieu 27, verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les passants se moquent de lui. Les soldats se moquent de lui. Mais ce n'est pas tout. Regardez, verset 41. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Et qu'est-ce qu'il disait? Il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Mes amis, Jésus est passé pendant son calvaire par toutes les phases de l'humiliation. J'aimerais vous poser une question sincère ce soir, mes amis. Aviez-vous déjà pensé à cela? Aviez-vous déjà pris conscience de cela? Que Jésus avait tellement souffert? Parfois, on parle seulement de la souffrance physique. Mais mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Une blessure intérieure guérit moins vite qu'une blessure extérieure. Un bras cassé, ça prend combien de temps pour y solidifier quoi? Les infirmiers, les médecins qui sont là. Un bras cassé, quelqu'un qui est jeune, 25 ans, 30 ans, on lui casse le bras, on le met en plate. Il est guéri au bout de combien de jours? Combien? Un mois, vous dites? Un mois et demi? Disons 2 mois. Est-ce que vous savez, quand quelqu'un commence à aller chez un psychologue, combien de temps ça dure? Est-ce que ça dure 1 mois? Oh, le plus souvent, mes amis, ça dure des années. Parce qu'une blessure intérieure, ça prend du temps plus encore à guérir. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, mes chers amis en Jésus, ne blessons pas les gens inutilement. Ne blessons pas, n'humilions pas, parce que c'est grave. Mais rendons-nous compte que Jésus a subi tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a subi tout ça? Pour toi, pour moi, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu sois sauvé. Et surtout, Jésus a subi tout cela parce qu'il veut que tu saches qu'il connaît toutes les souffrances de l'homme. Et quelle que soit ta souffrance, quelles que soient les humiliations que tu as connues dans ta vie, quelle que soit ta situation ce soir, tu peux compter sur Jésus car il comprend ce que tu vis. Non seulement il comprend, mais il peut te guérir. Parce que regardez mes amis, si les autres utilisent la parole pour blesser Jésus, quand Jésus parle, c'est toujours pour relever. Quand Jésus parle, c'est toujours pour guérir. Quand Jésus parle, c'est toujours pour sauver. Quand Jésus dit un mot, c'est toujours pour faire du bien. Et ce soir, Jésus a 2 mots à te dire pour te faire du bien. Jésus te dit, tes péchés sont pardonnés. L'autre mot que Jésus te dit pour te faire du bien, c'est « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Vous voulez voir comment Jésus dit cela? Et à qui Jésus dit cela? Prenez vos Bibles. Regardez dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Luc chapitre 7. Regardez avec moi ce que la Bible dit. Évangile de Luc chapitre 7. Mes amis, je sais que nous sommes fatigués en fin de journée. Je sais que nous n'avons pas tous l'habitude de nous concentrer pendant une demi-heure pour réfléchir sur un sujet. Mais je prie le Seigneur de nous donner son Saint-Esprit et la force afin de nous concentrer sur ce qui est dit ce soir. Car ce que nous disons ce soir, c'est la raison de l'échec de beaucoup de familles. C'est la raison de la folie de beaucoup d'hommes. C'est la raison de beaucoup de suicides. C'est la raison de beaucoup de personnes qui se suicident au travail. Vous n'entendez pas dans les actualités combien de personnes qui se suicident au travail? On cherche le problème du monde. Mais le problème du monde, c'est ça, mes amis. C'est parce que des hommes humilient des hommes. Mais ce soir, Jésus dit, « Moi aussi, j'ai été humilié. » Mais il dit, « Moi, je n'humilie personne. Et si toi, tu te sens mal, je peux te sauver. Je peux te faire du bien. Si on t'a toujours humilié, moi, je ne t'humilie pas, je te sauve. » Regardez comment Jésus le dit. Dans l'évangile de Luc au chapitre 7, verset 36, la Bible dit un jour, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et cette femme se tint derrière. Cette femme se tint où? Mais j'ai envie de vous demander quelque chose. Quand vous allez voir quelqu'un d'habitude, vous vous tenez ou devant ou derrière la personne? Pardon? Quand vous allez chez votre médecin, vous passez derrière le bureau et puis vous êtes derrière le médecin pour lui parler? Mais alors, pourquoi cette femme se tient derrière Jésus? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce qu'on a déjà tellement humilié cette femme. On lui a tellement dit qu'elle ne vaut rien. On lui a déjà tellement dit qu'elle n'est pas une personne, qu'elle est une bête. On lui a déjà tellement dit ça que lorsqu'elle vient voir Jésus, elle se sent tellement mal. Elle se sent tellement rien qu'elle ne peut même pas passer devant. Elle reste derrière, au pied de Jésus. Mais mes amis, j'aimerais vous dire une chose. Même lorsqu'on est derrière, même lorsqu'on n'est qu'au pied de Jésus, il y a une bénédiction pour nous si nous sommes sincères. La Bible dit que cette femme se tient derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds avec les larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Mes amis, pourquoi cette femme pleure autant? Parce qu'à l'intérieur, elle est ravagée. Elle est blessée. C'est une personne qu'on a déjà tellement humiliée, tellement écrasée. Elle ne fait que pleurer. Et si quelqu'un ici traverse la vallée des pleurs, le Seigneur a un message pour toi ce soir. Le Seigneur te dit, je peux sécher tes larmes. Le Seigneur te dit, je peux sécher tes larmes. Si quelqu'un ici traverse la vallée de la souffrance, de l'humiliation, de la descente, je te dis au nom de Jésus, ne te suicide pas, viens à Jésus-Christ. Regardez, tellement cette femme, on avait l'habitude de l'humilier. Regardez ce que va dire le pharisien qui a invité Jésus. Regardez le verset suivant, verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, de qui parle-t-il ? » De Jésus. « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Mes amis, espèce, c'est pourquoi? Espèce, c'est pourquoi, mes amis? Pour les animaux. Lisez la Bible et vous verrez que la Bible dit « Dieu créa tous les animaux, chacun selon son espèce. » Et l'homme, dans sa tête, il est en train de dire, cette femme est une espèce. Mais d'après vous, à quelle espèce est-ce qu'il pensait? Vous êtes timide? Vous ne voulez pas le dire, mais vous le savez. Vous savez à quelle espèce il pensait? Il était en train de dire « Moiselle, c'est une chienne ». D'ailleurs, c'est ce que nous disons chez nous, pas vrai? Quand nous voulons souvent humilier des gens, quand nous voulons souvent maltraiter des gens, qu'est-ce que nous disons? Bouktaa sans chien. Manzel sans chienne. C'est pas ce que nous disons. C'est pas notre vocabulaire parfois. Pas vous, pas vous. Non, non, pas vous. Non, pas vous, je vous en supplie. Pas vous. Pas vous. Pas vous qui m'écoutez, pas vous, les autres. D'accord? Mes amis, cette femme, vous savez maintenant pourquoi elle pleurait, pourquoi elle se tenait derrière, parce qu'elle avait l'habitude d'être humiliée, d'être considérée comme un rien. Cette femme avait été brisée, elle avait été ravagée par le harcèlement de ses contemporains. Cette femme ne se sentait plus rien. Mais quand on ne se sent plus rien, il faut aller à Jésus-Christ. Quand tu n'es plus rien, Jésus fait de toi une perle précieuse. Et alors, Jésus va donner une leçon à ce pharisien. Jésus va lui donner une leçon et Jésus va terminer cette leçon. Regardez comment Jésus termine la leçon au verset 44. Jésus termine la leçon au verset 44. La Bible dit, « Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, Simon, c'est le pharisien qui pensait que la femme était une espèce. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de larmes, de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Qu'est-ce que Jésus dit? Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Tes péchés sont pardonnés. Et ensuite, lisez la suite. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? » Mes amis, il n'y a que Jésus qui puisse pardonner les péchés. Aucun homme ne peut pardonner vos péchés. Même si cet homme a un titre religieux, il ne peut pas pardonner vos péchés. C'est Jésus seul qui peut pardonner nos péchés. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite à la femme? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Va, ta foi t'a sauvé, va en paix. Oh mes amis, voici pour chacun de nous le message de Jésus ce soir. Jésus dit à chacun de nous ici ce soir, tu es peut-être harcelé par ta conscience. Tu es peut-être harcelé par quelqu'un à ton travail qui te fait croire que tu ne sais rien faire. Tu es peut-être harcelé dans ta famille et tu te sens mal. Tu es découragé. Tu traverses la vallée des pleurs. Parfois, tu te sens tellement humilié que tu as peut-être parfois pensé au suicide ou pensé que tu ne vaux rien. Mais Jésus te dit, tu as bien fait de venir ici ce soir. Tu es venu entendre l'Évangile. L'Évangile, c'est deux paroles. Tes péchés sont pardonnés. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Oh mes amis, ce soir l'Évangile, c'est tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Oui mes amis. Quels que soient nos péchés passés, si nous les confessons, si nous croyons en Jésus, nos péchés sont pardonnés. Et je vous en supplie dans le nom de Jésus, ne laissez plus votre conscience vous tourmenter. Vous avez fait le mal. Parfois, le diable vient et il vous tourmente. Il vous rappelle votre passé. Il envoie quelqu'un pour vous rappeler votre passé. Mais dites-lui, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus, mes péchés ont été pardonnés. Et lorsque vous partirez d'ici ce soir, je voudrais que vous puissiez partir en paix. Parce que c'est Jésus qui vous dit. Ce n'est pas moi qui vous dis. C'est Jésus qui vous dit, va en paix. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Mes amis, voici ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit, tes péchés sont pardonnés. Revenons. Jésus nous dit, tes péchés sont pardonnés. Reviens encore, s'il te plaît. Merci. Et qu'est-ce que je lui réponds? Non, reprenons cela avec plus de conviction. Je me fais le porte-parole de Jésus. Et vous répondez. Jésus dit ce soir, tes péchés sont pardonnés. Jésus dit encore, ta foi t'a sauvé, va en paix. Jésus dit encore, viens à moi. Et nous répondons, sans Jésus, je ne puis vivre. Oui Seigneur, tu me dis viens, je viens et je viens vite. Parce que je conçois que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour être restauré. J'ai besoin de toi pour être régénéré. Mais j'ai peut-être aussi besoin de toi pour ne plus harceler les gens. Parce que certains d'entre nous sont victimes, mais d'autres ici ce soir sont bourreaux. Certains d'entre nous sont victimes, mais d'autres, nous avons été les agresseurs. Et tu sens que tu as besoin d'un changement. Tu as besoin de changer ta manière de parler aux autres, de parler à ta famille, de parler à tes collègues. Tu ne vois pas comment tu peux changer. Mais Jésus te dit, viens, et je peux t'aider à changer. Tu te sens brisé à l'intérieur. Jésus te dit, viens, je peux te renouveler. Et alors, dis à Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Dis à Jésus, je t'accepte, mon Sauveur. Et avec toi, je veux être sauvé. C'est toi seul que je veux suivre. Pour toi seul, je veux vivre ici-bas. Et quand je suis avec toi, Jésus, mon cœur n'a rien à craindre. Tu me conduiras. Je te suivrai, Seigneur, sans me plaindre.
Je te suivrai sans me plaindre.
Parce que je vais m'appuyer sur ton bras. Je te suivrai sans me plaindre. Et regardez ce que dit le deuxième couplet. Oui, l'amour et la promesse de Jésus doivent remplir ton cœur de joie ce soir. Et si tu es venu ici faible, tu repartiras fort, fort en Jésus ce soir. Et tu diras, mon cœur n'a rien à craindre, parce que c'est Jésus qui me conduit. Oh, c'est Jésus qui te conduira. Tu peux suivre Jésus sans crainte. Parce que son bras puissant sera toujours là pour t'acclamer, pour te supporter. Tandis que le chant sera murmuré, je demande solennellement à toute personne ici ce soir qui a besoin d'une reconstruction, qui a besoin d'être régénérée, qui a besoin d'un nouveau départ, à toute personne qui a besoin d'être changée parce qu'il reconnaît la violence de ses propos, parce qu'il reconnaît qu'il a parfois blessé des gens. Si tu sens que tu as besoin de cela, alors, sans regarder, même à celui qui est venu avec toi, lève-toi et tiens-toi debout là où tu es. Ce sera une manière pour toi de dire, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, régénère-moi, renouvelle-moi. Si tu as besoin de cela, ne regarde pas aux autres. Tiens-toi simplement debout là où tu es et le Seigneur prendra note de ta décision. Et tandis que vous croyez en Jésus, tandis que vous mettez votre confiance en Jésus, nous reprenons le chant, nous reprenons le premier couplet pour nous préparer pour la prière.
Je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas, c'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas.
Que nous prenons le deuxième couplet. Sentez la paix de Dieu entrer dans votre cœur. Fermez vos yeux et laissez-vous envahir par l'Esprit du Seigneur, par sa paix et par sa grâce. Sentez-vous délivré par le Seigneur. Sentez sa main travailler dans vos cœurs. Sentez le pardon de Jésus entrer dans votre vie. Oh oui, avec Jésus, il n'y a que du bonheur. Avec Jésus, c'est la paix. Position et prions ensemble.
Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce message de ce soir. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci Seigneur. Ce soir, il y a des personnes qui, depuis leur plus jeune âge, ont subi toutes sortes d'harcèlements moraux. On leur a dit qu'ils ne pourraient faire quoi que ce soit de bon dans leur vie. On leur a dit qu'ils sont voués à l'échec. On leur a dit raca dans la langue martiniquaise. Et ces personnes ont grandi croyant en cela, au notre Père. Il y a des personnes en souffrance ici ce soir. Il y a des personnes qui ont le cœur brisé. Elles sont découragées. Mais il est bon de savoir que toi, lorsque tu étais sur la terre, tu as également été harcelé. Toi, lorsque tu étais sur la terre, tu as également subi toutes sortes d'harcèlements. Ils se sont moqués de toi. Ils t'ont injurié. Ils ont craché sur ton visage. Ils t'ont frappé. Ils ont mis une couronne d'épines sur ton front. Ton sang a coulé. Tes mains ont été clouées. Tes pieds ont été cloués. Et en un instant, tu aurais pu te défaire de tes ennemis. Mais parce que tu as pensé à nous, parce que tu as pensé à la Martinique, parce que tu as pensé à tous ceux qui sont présents ici ce soir, tu as été jusqu'au bout. Ô notre Père et notre Dieu, merci pour ne pas avoir renoncé. Merci pour avoir persévéré jusqu'au bout. Merci pour ce sacrifice. Comment pouvons-nous, face à un tel sacrifice, te tourner le dos? Comment pouvons-nous, face à un tel amour, rejeter ta parole? Ô notre Père et notre Dieu, ta parole, nous le croyons, a pénétré nos cœurs ce soir. Et nous voulons te prier de nous accorder ton esprit, de telle sorte que ta parole puisse transformer nos vies, que nous puissions vivre proportionnellement à ta parole. Ô notre Père et notre Dieu, il y a des personnes ici ce soir qui sont harcelées par le désir de fumer la marijuana, harcelées par le désir de boire de l'alcool, harcelées par le désir d'avoir des relations sexuelles illicites. Elles se sentent faibles. Elles n'arrivent pas à dire non. Elles se sentent coupables. Mais notre Père et notre Dieu, il est bon de savoir, ou qu'il est bon de savoir que tu accordes le pardon à tes enfants. Il est bon de savoir que tu as le pouvoir, la capacité d'accorder la guérison, d'accorder la délivrance, d'accorder la libération. Oh, il est bon de savoir que tu es encore vivant et que tu peux faire des miracles dans la vie de tes enfants. Oh, notre Père et notre Dieu, donne-nous la force de dire non à la drogue, non à l'alcool, non à l'adultère, non à toutes ces choses qui nous font du mal. Et donne-nous la force de pouvoir dire oui à ta parole, oui à ta volonté, oui au salut, oui à une vie transformée. Ô notre Père et notre Dieu, que ta paix nous accompagne, que l'assurance de ton pardon pénètre dans nos cœurs, que l'assurance que tu reviens bientôt pénètre entre nos cœurs, et que tu puisses nous ramener ici ce soir avec un désir brûlant de pouvoir vivre selon ta volonté, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Que tous disent Amen.